Bonsoir à vous, c'est Supersonic. Tout est bien, tout est calme. Fin de journée, il est temps de se connecter au grand tout. Ça a vibré toute la semaine, ça n'a pas cessé de faire 1 plus 1 égale 2, et c'est le genre de choses qui rassurent dans le frénétique. Mais maintenant que c'est différent, maintenant qu'on s'assoit, maintenant qu'on est là, quelque part entre le samedi et le dimanche, c'est-à-dire nulle part, on peut aller chercher autre chose, invisible pour les yeux et sensible aux oreilles, on peut mélanger la nature et l'électricité, la mer et l'espace, l'ambition et l'impalpable, on peut mélanger et constater que ça nous mène ailleurs. Salut les androïdes, bienvenue. Tout à l'heure, nous serons avec Annabelle Play, compositrice, chanteuse, auteure, performeuse. On accompagne ce soir la sortie d'un album intitulé Vaisseau, au pluriel, autant dire que pour nous voguer et pour nous faire voguer ou voler jusqu'à minuit, ce sera idéal. Mais tout de suite, on se rend à Lyon avec le compositeur Bernard Faure, cofondateur et directeur artistique du GMVL, le groupe Musique Vivante de Lyon. Variation biologique, une des trois variations sur l'évolution réalisées pour le musée des Confluences à Lyon et signée donc Bernard Faure. Il y a aussi une variation surgissante et une variation géologique, énergie et matière, deux mots-clés de ce triptyque que vous signez. Bernard Faure, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en duplex des studios de Radio France à Lyon. À Lyon, où vous vous occupez du groupe Musique Vivante de Lyon, GMVL, qui est à la fois un lieu de résidence, un lieu de production musicale, un lieu de transmission, de formation, il y a des stages au GMVL, un vecteur d'édition aussi, hein, des disques du GMVL, et puis aussi peut-être surtout un groupe qui catalyse, rassemble toute une série de compositeurs contemporains. C'est un pôle créatif, le GMVL.
Oui, et ça depuis maintenant pas mal d'années, puisque nous avons débuté, Marc Favre et moi-même, très jeunes, en 75, et que depuis, et nous sommes encore actuellement à la Villa Gillet, cette maison s'occupe du développement des musiques électroacoustiques, évidemment à Lyon, en région, mais aussi en France et souvent même à l'international, un peu partout.
Mais alors, quand en 75, vous avez donc cofondé avec Marc Favre ce GMVL, c'était quoi l'utopie de départ, l'envie? Qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui vous manquait, vous, en tant que encore quasi-étudiant musicien?
Ça partait de la conviction que notre outil de composition, notre instrument finalement, c'était le studio. Alors le studio à l'époque, c'était une rangée de magnétophones, il fallait aligner des magnétophones, il fallait travailler sur la bande magnétique, puis sur les consoles de mixage et toutes ces choses-là. Et en fait, le GMVL, c'était au début une fédération de moyens, c'est-à-dire on se mettait à plusieurs pour équiper un studio qui deviendrait notre outil de travail. Mais finalement, ça voulait dire aussi que, alors que nous faisions des études relativement classiques, ce qui nous semblait être une évidence, c'est que le studio était maintenant l'outil de composition et que la bande magnétique remplacerait définitivement pour nous la partition.
Alors vous, cette conviction, vous l'avez eue comment? Vous l'avez rencontrée comment?
Alors moi, personnellement, c'est un trajet un petit peu particulier en même temps que beaucoup de gens ont eu. Qui a démarré avec un choc très très violent dont je me souviendrai toujours, qui est la sortie du disque Sgt. Pepper's des Beatles. Ce jour-là, alors que j'étais tout gamin, quelque chose me donnait l'impression que je passais du monde en noir et blanc à la couleur, et que c'était peut-être ça mon devenir. Pour la première fois, j'entendais sur un enregistrement, non pas des enregistrements de chansons, mais des chansons qu'il était impossible de faire autrement qu'en studio. Et à partir de là, je me suis dit qu'il était possible d'être musicien au XXe siècle, puisque c'était le XXe siècle.
Ah oui, c'était le choc de la modernité arrive avec Sgt. Pepper. Ce qui est étonnant quand on vous entend, Bernard Faure, c'est qu'il existe pas mal d'histoires évidemment autour de ce disque Sgt. Pepper, ce disque légendaire. Mais par exemple, quelqu'un comme William Scheller, lui, venait plutôt de la sphère musique contemporaine boulaise, tombe sur Sgt. Pepper et va plutôt vers la pop et la chanson. Et finalement, vous, ce disque-là n'a pas l'effet inverse, mais en tout cas, vous donne une direction qui mélange de certaine manière la technique et l'inspiration.
Oui, mais Sgt. Pepper's, pour moi, ça balaye très large. D'ailleurs, Stockhausen est en haut de la pochette.
Il y a du monde sur cette pochette.
Il y a du monde, mais ce monde avait été particulièrement bien choisi et finalement très représentatif. Mais c'était surtout cette idée-là que, à l'époque, j'avais envie de pratiquer des instruments de musique. J'en ai pratiqué plusieurs dans mon jeune temps et jamais avec un très grand succès. La flûte, le violon, le piano, la guitare, etc. Et finalement, chaque fois que je pensais à une musique, cette musique devait être plus riche qu'un seul des instruments. Et je me disais, si je veux être capable de jouer tous les instruments, c'est quelque chose qui se fait en studio. Et puis progressivement, j'ai basculé sur les musiques électroacoustiques, c'est-à-dire qui abandonnaient d'une certaine manière la mélodie et le tempo, mais encore que certaines fois, dans mes musiques actuelles, je retrouve ces choses-là.
Et alors il faut, pour un studio, il faut un lieu, et il faut presque un cocon pour envisager justement un lieu ouvert qui permette d'accueillir et d'être un peu collectif. Et ce cocon, assez rapidement, c'est donc la Villa Gillet, qui est cette maison qui est dans un parc dans Lyon même. Comment vous vous retrouvez là? Parce que ça, c'est important d'avoir un lieu, en plus un lieu comme celui-ci, qui peut permettre de se dire ça va durer.
Oui, alors là, c'est quelque chose qui s'est passé en 84, et c'est l'adjoint à la culture, à l'époque, Jacques Houdot, qui est tout simplement venu nous chercher. C'est-à-dire que la Villa Gillet devenait un projet culturel sur la ville de Lyon, qui était à l'époque d'ailleurs plutôt à l'initiative du conseil régional, et il était question d'y installer un certain nombre de structures artistiques, et on est venu nous chercher pour représenter là les courants musicaux. Alors, à la Villa Gilet, nous sommes installés dans les caves, des anciennes caves à vin qui étaient et des chambres de frigo, mais c'est très bien parce que nous sommes dans des studios qui sont particulièrement isolés, naturellement insonorisés aussi, et qui sont devenus depuis des lieux qui ne cessent de tourner sur la création électroacoustique.
Alors, ce qui est étonnant, Bernard Force, c'est que quand on connaît l'histoire justement de l'électroacoustique, l'idée de la maison, l'idée du pavillon se retrouve à être une forme de figure récurrente, puisque le service de la recherche, les lieux de naissance de l'électroacoustique, du groupe de recherche, ce qui est devenu le groupe de recherche musicale par la suite, les lieux de travail de Pierre Schaeffer, cette figure est évidemment essentielle de cette musique-là. Ça se passait aussi dans des pavillons, ça se passait aussi dans des maisons. C'est important d'avoir quelque chose qui ressemble à une maison, c'est le cas de la Villa Gilet, c'est une villa.
Oui, c'est une villa, et d'ailleurs on l'a appelée Villa Gilet, un petit peu comme on pouvait penser Villa Médicis aussi, c'est-à-dire un endroit où des artistes se réunissent, des artistes de plusieurs disciplines, et un lieu de rencontre, un lieu d'échange dans lequel très rapidement se sont installées aussi des activités de formation, de pédagogie, etc., etc.
Est-ce que votre défi, vous, au quotidien, c'est à la fois d'avoir cette direction artistique du GMVL et en même temps de mener un travail de compositeur en tant que compositeur, en tant qu'auteur vous-même ?
Oui. Et ça n'a pas toujours été facile de concilier les deux, parce qu'évidemment, un compositeur, il n'a qu'une idée en tête, c'est de composer sa propre musique. Et toutes ces structures qui s'appellent GMVL, mais qui s'appellent GRM, qui s'appellent je ne sais quoi, qui se sont appelées GMEB, ou etc., ce sont des structures collectives qui se trouvent souvent à avoir un directeur qui est lui-même aussi compositeur. Mmh. Et il faut qu'il fasse en sorte, évidemment, de ne pas trop écraser les petits copains.
Oui, bien sûr, et laisser la place, c'est tout le but justement d'avoir un groupe musical comme le GMVL en particulier. Là, vous avez cité des collègues à Bourges ou à Marseille, et ces studios existent, donc, et à Lyon, donc c'est le GMVL. Pour venir à votre œuvre, à vous, Bernard Faure, il y a un lien très fort avec tout un pan de votre œuvre qui est lié au chant des oiseaux. Alors, on va en parler, mais j'aimerais qu'on écoute un élément, une pièce sonore à vous qui s'appelle La dynamique du chant. Et La dynamique du chant, est-ce que vous pouvez nous dire d'abord les conditions d'enregistrement de cette pièce, de ce rossignol enregistré donc en 2000.
Alors, c'est un rossignol qui a été enregistré de nuit. Mmh. C'est important parce que c'est un oiseau qui chante de jour, de nuit, qui chante à tous les moments et j'allais dire pratiquement dans toutes les positions. Mais de nuit, l'intérêt, c'est qu'il est le seul et il occupe tout l'espace simplement avec son chant dans le silence de la nuit. Et il faudrait pouvoir enregistrer le rossignol plus de 20 minutes avant de retomber exactement sur les mêmes choses. Et c'est un chant qui déborde d'énergie. Et dans cette pièce, je prends donc un extrait de la durée de la pièce, environ 5 minutes, et je respecte le chant tel qu'il est. C'est-à-dire qu'en fait, la pièce est organisée autour d'un moment de cette prise de son. Et à partir de là, un peu à la manière d'un concerto, si je considère que lui c'est un soliste, alors je compose la partie pour orchestre, c'est-à-dire en fait la partie qui accompagne et qui établit des contrepoints avec le chant de l'oiseau. Et là c'est plutôt des instruments de percussion, à savoir des bols thaïlandais et des bols tibétains, et tout un travail de montage et d'écriture électroacoustique sur ces sons de percussion, et quelques traitements qui sont faits par les outils GRM Tools.
Un rossignol enregistré en Sardaigne, la nuit.
C'est ça.
On l'écoute, La dynamique du chant. Thank you. La dynamique du chant, un rossignol Philomèle enregistré en 2000 par vous, Bernard Faure. Et cette pièce donc composée autour de ce chant qui n'a pas été manipulé, le son n'a pas été repris et transformé. Et par contre, tout ce qui est autour, ce contrepoint dont vous parliez, évidemment, est une composition électroacoustique. La totalité, d'ailleurs, est une composition, mais autour de ce son respecté, j'allais dire, de l'oiseau. La rencontre avec les chants d'oiseaux, pour vous, compositeur Bernard Faure, ça s'est passé comment et à quel moment ?
En fait, depuis mes premières compositions, j'étais très intéressé par ce que j'appelais les modèles naturels, c'est-à-dire en fait les sons qui ont un déroulé sur lequel je n'interviens pas spécialement. On dit souvent en prise de son, on peut faire des séquences jeu et sentir le geste du manipulateur du corps sonore. Mmh. Et ça, c'était une attitude qui me correspondait pas vraiment. Alors, je me souviens par exemple que je passais un temps infini à jeter des balles de ping-pong et puis à enregistrer la manière dont elles rebondissaient parce que je trouvais que ça, c'était les lois de la nature qui parlaient. Mmh. C'était plus moi. Moi, j'avais juste déclenché ça.
Il y a un côté ready-made, en quelque sorte.
D'une certaine manière. Et puis observateur. Mmh. Et puis, progressivement, quelques oiseaux ont commencé à pénétrer dans ma musique, mais le grand déclic a eu lieu, je dirais, vers la fin des années 80, lorsque l'idée m'est venue d'organiser un gigantesque concert d'oiseaux sur plusieurs hectares dans le parc de la Villa Gilet, que nous avons divisé en 5 continents, et avec une projection avec des haut-parleurs qui étaient dans les arbres en assez grand nombre et des projections de paysages sonores enregistrés aux 4 coins du monde ou même très exactement aux 5 coins du monde pour chacun des continents. Toutes ces prises de son étaient éditées à l'époque chez Citel par Jean Rocher qui est un des grands fondateurs de ce courant audio-naturaliste.
Un grand enregistreur du vivant. Jean Rocher.
Voilà, qui très vrai. Enfin, il n'a pas enregistré toutes les espèces parce qu'on en découvre encore et on découvre encore des sous-espèces, mais il a véritablement parcouru le monde et établi un catalogue de chants d'oiseaux qui est gigantesque. Et ces oiseaux-là, justement, quand il les éditait sur disque, il reconstituait les paysages sonores. C'est-à-dire que il enregistrait les oiseaux relativement indépendamment les uns des autres et il par mixage et par montage, il reconstituait ce qu'il appelait des concerts d'oiseaux. Et donc, cette grande performance que nous avons organisée dans ce parc consistait à faire entendre les concerts d'oiseaux de Jean Rocher simultanément à différents endroits. Et ça devenait un grand concert, une grande symphonie des sons de la nature, pendant laquelle le public se promenait. Et je crois que dans les jours qui ont suivi, j'ai acheté ma première parabole et j'ai commencé à m'équiper moi-même pour enregistrer à mon tour les chants d'oiseaux.
Parabole qui permet d'enregistrer en étant forcément un peu loin de la source et malgré tout de garder une proximité avec le son, avec le chant lui-même de l'oiseau, c'est ça ?
Voilà, c'est en fait une sorte de paire de jumelles pour les oreilles. ça raccourcit les distances et ça permet effectivement des enregistrements d'une très très grande précision.
Alors, néanmoins, vous étiez assez proche là, du rossignol sarde qu'on vient d'écouter. Ça se compte quand même en 20-30 centimètres.
Oui, mais alors le rossignol sarde, justement, il échappe un peu à cette règle, puisque lui, il a été enregistré avec un micro-canon. Et donc, le micro-canon permet, au contraire, d'éliminer tout ce qui est autour du sujet qu'on enregistre. Et le micro-canon, c'est l'outil idéal pour faire ce que j'appelle un portrait d'oiseau. C'est-à-dire, mon obsession, c'est l'idée de faire passer l'oiseau dans un photomaton. C'est-à-dire, en fait, le sortir complètement
de son environnement
ouais. Pour l'avoir comme un objet musical à partir duquel je vais pouvoir travailler.
Vous dites quelque part, Bernard Faure, j'ai peine à croire à une stricte fonctionnalité des merveilles de la nature. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que de plus en plus, les naturalistes se posent par exemple la question du sens esthétique dans le monde animal. Et en ce qui concerne les oiseaux, ça pose aussi la question du plaisir de chanter. Y a-t-il un plaisir de chanter ? Jean Rocher défend cette idée, il défend d'ailleurs cette idée aussi que si les singes gibbons, donc c'est complètement une autre catégorie, mais que ces singes se rassemblent en chorale et prennent plaisir à chanter ensemble. Et ce qui est certain maintenant, et les études le prouvent, c'est que le rossignol Philomèle, dont le nom dit qu'il est d'ailleurs amateur de musique, le rossignol Philomèle, mais des tas d'autres oiseaux chanteurs, séduisent leurs femelles par l'esthétique de leur chant. Alors l'esthétique se traduit par des qualités de timbre, de virtuosité, de puissance sonore, etc. etc. Mais en gros, ça veut dire si je suis un grand ténor, alors j'ai des chances de me marier et de faire des belles conquêtes. Donc finalement, rien ne change.
C'est ça, l'ordre est respecté, mais à travers une question esthétique. Justement, la question esthétique, elle touche évidemment la personne qui entend, et encore plus peut-être la personne qui enregistre, surtout quand cette personne est compositeur ou compositrice. Vous dites à propos, cette fois, de la grive solitaire, qu'elle représente pour vous l'émotion à l'état pur.
Oui, c'est véritablement l'émotion à l'état pur. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai enregistré, c'est donc un oiseau d'Amérique du Nord, et c'était dans une forêt québécoise. C'est un oiseau que j'avais entendu de loin dans certains enregistrements. Et là, je suis tombé sur un sujet qui, effectivement, d'ailleurs, était solitaire. Et j'ai branché mon micro et l'enregistrement a duré peut-être 20 ou 25 minutes. Et au fur et à mesure que j'écoutais, j'étais fasciné, véritablement fasciné par le timbre, par des aspects certaines fois un petit peu diphoniques qu'il y a dans son chant, et puis une structure musicale qui est véritablement surprenante. Une phrase se compose de quatre petites phrases qui elles-mêmes se composent chacune de trois motifs, et ces phrases-là sont versifiées comme on a des rimes dans un sonnet, et la structure m'apparaissait, et c'est une véritable émotion que de se dire que finalement, comme disait Olivier Messiaen, les oiseaux ont tout inventé, il nous suffit de nous en inspirer, de les imiter, mais toutes les formes, toutes les structures, tous les modes de développement, ils ont ça en eux naturellement.
Mais c'est un défi alors aussi pour vous en tant que compositeur, quand il s'agit d'utiliser cette captation pour en faire une pièce.
Oui, alors c'est bien pour ça qu'à partir de là, le travail sur lequel je décide de partir, c'est pas de prendre le chant de l'oiseau et de le complexifier à mon tour, par montage, de le tordre, etc. C'est au contraire essayer de me mettre au service de ce thème pour voir jusqu'où peuvent aller mes développements. Ça veut dire que je fais un portrait du chant de l'oiseau, je regarde comment il est structuré, Et c'est tout ça qui va m'indiquer la forme de la pièce que je vais composer par la suite. C'est-à-dire que je trouve l'inspiration à l'intérieur même du thème. Je me réfère souvent, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais à l'offrande musicale, c'est-à-dire un thème nous vient d'ailleurs, il est riche, il est d'une telle richesse qu'on peut composer une œuvre complète à partir de ce seul thème. Et c'est véritablement ça l'idée. Donc je ne fais pas le thème, il m'est proposé.
La voilà donc la grive solitaire, après c'est l'exposé de cette méthode et de cette réflexion autour de l'usage des chants d'oiseaux dans vos compositions, Bernard Faure. Étude solitaire, voilà, étude comme une esquisse, l'esquisse d'un peintre, l'étude autour de la grive solitaire. L'oiseau, en l'occurrence la grive solitaire, captée quelque part au Québec par vous, Bernard Faure, la grive solitaire à la fois comme inspiration du compositeur que vous êtes, mais aussi comme soliste dans la pièce qu'on entend là, étude solitaire. Cet intérêt est profond pour le chant des oiseaux aussi, qui est aussi une réflexion sur le son et la musique dans la nature. On comprend que c'est toute une part de votre œuvre. Alors en ce moment, ces derniers mois, ces dernières années, il y a une rencontre qui a été assez fondamentale et qui vous a amené, on parlait des cinq coins du monde à l'instant, il y a quelques minutes, dans un de ces cinq coins du monde qui est la Mongolie. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire ?
Alors la Mongolie, c'est quelque chose qui est devenu très important effectivement. Et j'ai découvert là-bas, à l'occasion de la réalisation de musique pour des spectacles chorégraphiques avec la chorégraphe Kilina Cremona, pour un spectacle pour la Biennale de la danse qui traitait des routes de la soie. Et cette chorégraphe avait fait donc un spectacle de danse avec des danseurs qui venaient de Mongolie, parmi lesquels Bayar Batar, un chanteur diphonique, était musicien à côté de moi d'une certaine manière. Et on a fait connaissance sur le plateau. Et de là, j'ai découvert toute une poésie et toutes ces techniques particulières du chant, mais aussi toute une culture musicale, toute une culture poétique qui a fait que j'ai élargi de plus en plus mes connaissances sur les arts de Mongolie et que c'est véritablement quelque chose dans quoi je me sens très très bien.
Le chant diphonique, vous pouvez dire ce que c'est la capacité de chanter deux notes en même temps, c'est ça?
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, de chanter un fondamental grave et puis, avec un travail sur la cavité buccale et les résonateurs, de faire sortir des harmoniques à partir desquelles on peut faire de véritables mélodies.
Alors, comment êtes-vous devenu compositeur mongol? Si on peut le dire.
Je ne suis pas encore complètement compositeur mongol, mais rentrer à ce point dans cette culture m'a donné envie, effectivement, de faire un certain nombre de concerts et de spectacles avec ce musicien, auquel s'est associée par la suite une musicienne, Shinbad Bazanku, qui pratique cette grande harpe mongole, qui est pour le moment, disons, peut-être ce que j'ai fait de plus intéressant à partir de cet instrumentarium. Elle m'a demandé si je pouvais lui composer une grande sonate, un petit peu virtuose, et traitant de la musique contemporaine pour son instrument. Et donc, la saison dernière, nous avons fait la création donc, de la sonate pour Yatak, c'est le nom de cet instrument, et nous avons fait la création à l'abbaye de Noirlac, et je vais, dans les jours qui viennent, retourner en Mongolie pour la faire entendre pour la première fois à Oulan-Bator.
Alors, c'est une sonate en quatre mouvements, et la quatrième, et le quatrième est un peu plus électroacoustique que les trois premiers.
Oui, en fait, il y a des mouvements pour l'instrument seul, c'est le cas du mouvement lent par exemple. Il y a des mouvements qui sont mixtes, c'est-à-dire qui utilisent des traitements électroacoustiques en direct. Il y a à ce moment-là un micro-contact qui est placé sur l'instrument. Et le dernier mouvement, qui s'appelle « Lever du jour », est un mouvement entièrement acousmatique, c'est-à-dire il s'écoute sur des haut-parleurs et là, l'instrumentiste écoute avec moi.
Lever du jour, parce que c'est adapté d'une composition préexistante.
Voilà, c'est-à-dire que cette compositrice, donc Shinbad Bazanku, a composé une pièce qui s'appelle Mandanar en mongol, ce qui signifie le lever du jour. Et j'ai pris les 10 premières mesures qui servent d'introduction, et ces 10 premières mesures, j'ai fait un travail purement électroacoustique dessus. Et en parallèle avec un chant d'oiseau enregistré en Mongolie. Et ce chant d'oiseau me semble chanter tout à fait en résonance avec l'écriture qu'elle avait. Et donc, c'est un travail parallèle qui rejoint un peu ce que je faisais avec l'étude solitaire, ou sur la dynamique du chant qu'on entendait tout à l'heure, mais cette fois-ci, la partie qui est concertante avec le chant d'oiseau, c'est un travail fait à partir de prises de son sur cet instrument.
Voilà, lever du jour, donc une série de croisements entre différentes inspirations naturelles ou de collègues compositeurs, compositrices. Donc en l'occurrence, c'est donc issu de la sonate pour Yatag que vous avez donc composée pour Shinbad Bazanku, c'est ça?
C'est un peu des noms à coucher dehors.
Oui, en tout cas qui vous permettent aussi de faire quelques allers-retours en Mongolie, donc avant le prochain, donc très prochain, si j'ai bien compris, on va écouter donc un extrait, le début de ce lever du jour. Un petit mot, Bernard Faure, avant de se quitter, annoncer un CD qui sort chez Frémo Associés bientôt, un enregistrement d'orage.
Oui, un disque qui va s'appeler L'Orage et qui va durer tout le temps que peut contenir un CD, c'est-à-dire, si mes souvenirs sont bons, 1h20, mais en réalité, cet orage, c'est une série d'orages, et on va se promener dans différents endroits, en montagne, en plaine, au bord d'un lac, dans des paysages extrêmement différents, de jour et de nuit, comme si cet orage-là nous conduisait, en fait, à différents endroits de la planète.
Orage composé, recomposé, multigéographique. Merci beaucoup Bernard Faure d'avoir été avec nous en duplex de Lyon. Je rappelle donc évidemment le groupe Musique Vivante de Lyon dont vous êtes le directeur artistique et cofondateur. On va mettre évidemment les bons liens pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur le GMVL. On met ça sur le site de Supersonic sur franceculture.fr et on se quitte avec ce paradoxal levé du jour. Merci à vous.
Je vous remercie.
Supersonique de Thomas Baumgartner sur France Culture.
On termine donc notre dialogue avec Bernard Faure avec cette pièce qui nous amène loin. L'électroacoustique, c'est une question d'espace et on ne va pas quitter cette question-là, mais on va la prendre peut-être sous d'autres sens aussi. Nous allons parler avec la créatrice sonore et compositrice Annabelle Play, dont le dernier disque s'intitule « Vaisseau ». Un pluriel qui contient autant la mer que l'espace intersidéral, Christophe Colomb et la science-fiction, si vous voulez. Voilà un extrait de « Vaisseau ».
Thank you.
Même famille, autre branche, Blood, c'est le morceau, issu de ce disque vinyle Vaisseau, au pluriel, signé par vous, Annabelle Play, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Comme disait Véronique Lamandour, la réalisatrice de cette émission à l'instant, là les oiseaux sont un peu plus énervés, pourtant ils sont là aussi d'une certaine manière. Oui. Mais je ne sais pas, le sang qui coule dans ce morceau, Blood, donc c'est le sang en anglais, oui. Est-ce que c'est le vôtre? Comment vous l'avez capté? D'où vient-il?
C'est-à-dire que pour moi, Vaisseau, c'est à la fois des navires, à la fois des vaisseaux spatiaux, mais aussi c'est le corps,
et oui.
Puisque le corps est notre vaisseau.
Les vaisseaux sanguins.
Voilà, les vaisseaux sanguins, et puis aussi notre enveloppe
charnelle. Ah oui. Nous sommes notre
charnelle,
propre vaisseau.
Voilà, nous nous mouvons dans la vie avec notre corps, et à l'intérieur de ce corps, il y a le mouvement de la pensée, le mouvement de l'émotionnel, de l'affectif, de la mémoire. Donc voilà, c'est un morceau effectivement assez énervé et innervé.
Énervé, innervé, oui. Incarné, donc oui. La chair est là, oui. Voilà, l'être humain,
oui.
L'énergie humaine.
Là, oui.
Quand on entendait Bernard Faure à l'instant parler, la question de l'énergie évidemment oui. Est là, celle qui est transmise par le chant, par la vibration du
oui.
chant, mais ça c'est une question qui vous intéresse aussi, Annabelle Play.
Oui, parce que je viens du chant. Effectivement, d'ailleurs, il apparaît là dans la pièce. Et effectivement, pour moi, la composition et le travail de son est aussi un travail de corps. Peut-être, est-ce que ça vient de pratiques, de yoga, de méditation aussi, qui m'ont beaucoup nourri. Mais la musique et le geste musical, forcément, est nourri de tout ce qui nous traverse et cette énergie aussi. J'ai souvent l'impression d'être une antenne et de capter les énergies magnétiques du monde. Ce que Bernard Faure développe avec, je trouve, une écoute très délicate du monde. Quelque part, bien, moi j'ai la sensation d'être cette membrane qui reçoit la vibration, les vibrations comme ça de la planète, du ciel, et puis aussi humaine, forcément.
Antenne, membrane, alors ça, ce qui est intéressant, c'est que ces deux métaphores-là sont à la fois des métaphores de réception et d'émission.
Hein. Tout à fait.
Une membrane, c'est celle du micro qui enregistre, c'est aussi celle du haut-parleur qui diffuse. L'antenne, évidemment, reçoit et transmet. C'est une manière de vous représenter, vous, comme compositrice?
Oui, alors déjà, en tant que chanteuse, c'est vrai on est ça. Et c'est vrai aussi, alors, par rapport au son, c'est différent. Puisque le son n'est pas généré par le corps, mais par le geste et évidemment par les machines. Et le son est transmis par des haut-parleurs. Donc il y a comme ça des relais, et c'est un autre rapport d'écoute et de geste musical, qui pour moi est très très différent du chant, que je rapprocherais davantage de la danse que de la pratique instrumentale, en fait.
Mais effectivement, dans votre propre parcours, ces différentes étapes comme ça d'usage du son et ces différents supports, on les retrouve aussi, parce que vous commencez donc par le chant, mais alors c'est du chant contemporain, enfin, vous chantez du John Cage, par exemple,
oui,
en particulier pour le jeune public, voire très jeune public.
Oui.
Les enfants sont sensibles à du John Cage?
Ah oui, particulièrement sensibles à toute la musique vocale de la seconde moitié du XXe siècle, parce que toutes ces pièces de Berlioz, de Georges Apergis, Jacques Rebautier, John Cage, etc., Cathy Berberian, c'est maintenant aussi l'histoire de la musique, développent à la fois un panel d'émissions vocales et de jeux vocaux qui sont très proches de l'univers des enfants, les partitions qui développent des graphismes étonnants, et puis aussi les jeux sur le langage. Donc les enfants ont une faculté, une réception très facile de ces œuvres-là.
Le côté ludique de ces compositeurs leur permet un lien facile. Mais alors, comment vous passez de ce chant, de la pratique du chant, à la machine?
Alors, déjà, je le disais un petit peu précédemment, c'est vrai que il y a des liens par le corps. Après, il y a quelque chose que je trouve un peu plus facile par rapport au son. Je trouve que le chant est assez ingrat, parce que c'est un travail très, très, qui demande beaucoup d'ascétisme, en tout cas pour ma part, et un travail très rigoureux. Ça ne veut pas dire que le son ne demande pas ça, mais le son n'est pas assujetti aux mots du corps. Voilà, quand on chante, on est très sensible à beaucoup de choses et on dépend de beaucoup de choses, donc enfin extérieures. Il faut une vie très saine, enfin, en tout cas pour ma part. Alors que le son, il y a une immédiateté déjà par rapport à la production du son. Et aussi, il y a une dimension polyphonique qui est tout de suite là, qui est immédiate. Donc c'est le plaisir aussi de la masse sonore et de construire à partir de, pour moi en tout cas, de cette masse que j'ai la sensation de sculpter en fait.
Est-ce que vous parleriez d'une forme de lyrisme possible avec la machine?
Oui. Oui, oui. Alors, justement, le lien entre le chant, c'est drôle parce que quand je fais des prises de son et que je cherche sur des synthétiseurs, il m'arrive de reproduire ou de rechercher presque la phrase vocale. Le souffle, la respiration, l'attaque du son, la conduite du son jusqu'à sa terminaison. Donc, je pense que oui, il y a une forme de lyrisme avec presque des petites mélodies à l'intérieur, des contrepoints à l'intérieur des pièces sonores.
Une forme de lyrisme, quelque chose de massif aussi parfois, pas tous les morceaux, mais certains. Je pense à certains éléments d'un disque précédent, avant Vaisseau, qui était Matrice, où là, vous allez vraiment une forme de mur sonore possible, quelque chose de proche d'une esthétique de la noise aussi.
Oui, oui, tout à fait, quelque chose d'assez... en fait, Matrice, il y a d'abord eu le premier morceau du disque, et c'est ce premier morceau est venu presque d'un cri que moi je n'ai pas pu émettre. Et voilà, parce que j'étais très malade à l'époque et je ne pouvais pas, j'avais plus la possibilité d'utiliser ma voix, donc je suis allée à la machine.
Parce que le corps ne peut pas, la machine pouvait le faire.
Voilà,
à ce moment-là.
Voilà. Et donc ce premier morceau est venu d'un seul G en fait.
Sur Matrice, on trouve aussi le morceau suivant. Attention, ça commence carré.
Thank you.
Annabelle Play, on se rend compte avec cet extrait de votre disque Matrice qu'en compositrice, vous faites un usage du glitch. On en parlait l'autre jour aussi dans cette émission avec Nicolas Nova en parlant du reggae et du chiptune, donc du reggae composé avec des sons d'ordinateur et jeux vidéo des années 80 et 90. Il y a un usage de l'erreur numérique en fait qui devient, sinon instrument, en tout cas note.
Oui, exactement. Puis les accidents, tout est, voilà, c'est là et il n'y a pas de jugement à avoir avec le son. Tout est création en fait.
Comment on obtient un glitch? Comment on va le trouver?
Alors, écoutez, je vais vous dire une chose, c'est que je suis une très mauvaise technicienne.
Ah,
je fais tout à l'oreille de manière très, très intuitive. Donc, j'apprends au fur et à mesure et ça m'intéresse de plus en plus d'aller fouiller les modes d'emploi et le fonctionnement des machines. Mais c'est vrai que j'y suis venue de manière vraiment comme un enfant qui découvre un jouet, en fait. Et c'est comme ça un petit peu avec tout ce que je pratique. C'est un élan et après j'approfondis, mais c'est d'abord exprimer cette énergie intérieure. Vous parliez tout à l'heure de vaisseau, ce qui est important aussi pour moi c'est ce voyage intérieur aussi, voilà, cette dimension de l'intériorité.
Et quand on vous écoute et quand on écoute vos compositions, Annabelle Play, on se dit qu'il y a aussi une dimension quasi, enfin on peut le dire, métaphysique en fait dans votre travail.
Oui, c'est-à-dire que ce qui me questionne, ce qui me met en mouvement artistiquement, intellectuellement, c'est cette force de l'amplitude entre ce qui est naturel, terrestre, cosmique, et en même temps le vertige chez l'humain entre ce qu'il a de plus lumineux et de plus obscur en fait. Ce sont ces écarts-là, ces arcs tendus entre ces pôles-là qui m'intéressent, qui me questionnent et que je cherche à exprimer, et par la création je les mets en question, et puis peut-être pour moi j'y apporte certaines réponses, mais ce n'est que pour moi. Mais en tout cas, c'est vraiment ce qui me questionne et ce qui me met en mouvement en fait.
Et vous exprimez aussi à travers des lives où vous défendez justement ces morceaux, notamment en ce moment Vaisseau, des lives où l'image a sa part aussi, où vous vous éloignez de la machine, de l'ordinateur.
Oui, alors le live de Vaisseau est un duo avec Marc Siffert qui est contrebassiste et qui est un musicien extraordinaire, parce qu'il a aussi une réelle réflexion sur le son, l'espace, une réflexion philosophique aussi. Donc c'est très très intéressant de travailler avec lui, parce qu'on a des points de départ qui peuvent être différents, mais on chemine ensemble. Et donc Vaisseau et ce duo, donc Marc est aussi au synthétiseur et au Revox et à la spatialisation sonore, et à partir aussi d'images qui ont été filmées sur la côte d'Opale avec Grégory Robin, réalisateur, qu'après j'ai monté en fonction de la musique. Donc voilà, le lien entre la musique et l'image est aussi important pour moi. Quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
C'est pas sur la côte d'Opale qu'on pourra vous voir prochainement, mais normalement dans pile deux semaines à cette heure-ci, vous serez plus ou moins autour de la scène du festival Trafic, donc c'est le 25 juin, et ça se passe à Montpellier où vous allez défendre Vaisseau.
Oui, alors Trafic en fait est un lieu de photographie à Montpellier qui nous accueille. Alors ils ne sont pas voués forcément au spectacle ou au concert, mais on a été invités par ce lieu à venir jouer Vaisseau, et d'ailleurs on va mettre les images au plafond cette fois.
D'accord, oui, donc c'est pas un festival, c'est un lieu, et vous y serez donc, c'est à Montpellier le 25, dans 15 jours, donc un samedi aussi. Alors il y a le son et puis il y a le texte, donc vous êtes l'auteur d'au moins deux textes qui sont parus, Ligne et Mater, les deux titres, et je vous ai proposé de lire un extrait de ce texte, de ces textes. C'est à vous, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est?
Oui, alors ces textes, je le dis, ont été édités par Alna Éditeur. Ces deux textes, en fait, le premier s'appelle Ligne. Alors Je suis une apprentie auteur. Hein. Pour le premier, donc, ça a été mis en scène par Ludovic Longelin et je l'ai dit sur scène, accompagné d'une musique que j'ai composée en amont, qui a été diffusée sur 10 haut-parleurs. Et ensuite, Ma Terre, qui a été une commande d'Isabelle Krauss, qui est metteur en scène, une tragédienne de Clermont-Ferrand, pour laquelle j'ai écrit ce texte, Ma Terre, sur mesure, en fait.
Et vous avez accepté de lire pour nous un extrait d'un de ces textes, le texte intitulé « Ligne ».
Je sors d'une gare, une bouche de métro. Dans le N de ma nuque, les interlignes des cheveux. Sur le haut des lobes, dans la sensation du ventre, l'épuisement de l'oubli, se consume un hall d'images, mouvement qui jamais ne renonce. Compression, dilatation, station. Une aspiration, dernier reflux terminal. La carcasse resserre, presse sa membrane sur l'agitation inachevée, la fixant comme un emballage sous vide scelle un rumsteak organique. Compression, dilatation, station. Dans les plis des coudes, sur l'arc des chevilles, l'ove de mes pensées, flash, flash. Dans l'innervation du moment à suivre, l'espace dilaté, la station figée flotte en un point. Corpusculaire, bille noire, d'où s'étire un filet qui, dans l'image du ciel, serpente et relie à la surface des pupilles contractées la ligne du lointain. Une fugue qui s'échappe et dont les contrepoints enlacés assombrissent les rives d'une ville avec l'écho d'un souvenir abandonné.
Extrait de Ligne.
Oui, voilà, c'est le parcours d'une jeune femme qui traverse une ville, qui cherche un lieu d'hébergement et qui va se confronter à un homme qui représente tous les interdits un peu dans l'histoire de l'humanité que certains hommes ont mis vis-à-vis des femmes. Donc c'est une figure de femme qui va dire non et qui va refuser tout ce que les générations de femmes précédentes ont vécu, et qui va aller jusqu'au crime pour s'opposer et dire non, encore une fois. Et dans la forme performance, ça se termine avec un chant sur une pièce assez électroacoustique, assez lyrique, pour reprendre votre terme.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Annabelle Play. On n'a pas dit que Vaisseau était édité par le label DAC.
Oui,
voilà, comme ça, c'est dit.
DAC Records. Oui, oui.
Merci beaucoup d'être passé par ici.
Merci à vous.
C'est la fin de Supersonic. Pour aller plus loin, il y a franceculture.fr avec la réécoute pour toujours, les podcasts et les commentaires tout en bas de la page. L'émission a été préparée et coordonnée par Inès De Bruyne, réalisée par Véronique Lamandour, et merci à Olivier Guérin. Et au son ce soir, il y avait Stéphane Démon à Paris et Chantal Nouvelot à Lyon. Dans un instant, vous retrouvez les nuits de France Culture. Et nous, on se retrouve samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien.